Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je propose que nous fassions une lecture dans un livre de l'Ancien Testament. Nous allons lire dans le livre des Juges les références, chapitre 2, versets 6 à 23. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir, et se prosternaient devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos toutes ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. » Deuxième lecture, chapitre 3, verset 31. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf, et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Dernière lecture, très courte, toujours dans le livre des Juges, chapitre 5, verset 6. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers cette parole, et nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Peu de choses nous sont révélés sur ce personnage un petit peu singulier qui se nomme Shamgar, et ça veut dire celui qui garde. Alors je vous expliquerai après, à la fin, pourquoi il a porté ce nom, et c'était un nom prédestiné. Donc, on ne sait pas grand-chose. Son père s'appelait Anath, et il était juge en Israël. Pour bien comprendre sa fonction, ou la fonction de juge, et puis également son histoire à Shamgar, je crois qu'il faut s'enquérir de la condition civile et religieuse d'Israël de l'époque. parce qu'on ne peut pas sortir un texte de son contexte. On est bien d'accord, il faut toujours, là, le comprendre dans l'environnement dans lequel, cette histoire s'est déroulée. Après les temps forts et héroïques que les Hébreux ont vécu sous la conduite d'abord de Moïse et ensuite de Josué, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, ils nous ont dit que ça se passait pas trop mal, j'allais pas dire très bien, mais pas trop mal, hein, tant que Moïse et puis Josué, conduisaient le peuple. Mais nous voyons que ensuite, cette génération qui est née de ces grands hommes et à travers toute cette histoire épique, nous voyons que le peuple d'Israël a connu pendant environ 450 ans, on pourrait appeler ça son Moyen-Âge, c'est-à-dire une période d'obscurantisme qui était appelée par les commentateurs bibliques la période de fer d'Israël. Période cruelle, s'il en est, quand on voit un peu ce qui se passe. Une période barbare, une période sanglante, et nous avons quelques exemples, puisqu'il est question de Jaël, à un moment donné, nous l'avons eu, du temps de Jaël. Vous savez ce qu'elle a fait? C'était une femme, naturellement. Elle a pris un pieu et elle l'enfonçait dans la tente de Sisera. Vous allez me dire, c'est quand même assez hardi. Et puis, un peu plus tard, du temps d'Abimélec, qui s'était proclamé roi de Sichem, il a massacré ses 70 frères. C'était encore certainement un descendant de Caïn, dans son genre. Et puis, Jephté, lui-même, qui était certainement un bon juge, a sacrifié sa fille par un serment téméraire. Ça vous rappelle des souvenirs, tout ça, Je passe très vite, Et puis, il y en a eu tant et tant. Une autre histoire qui est époustouflante, qu'on ne pourrait pas imaginer aujourd'hui, un Lévite, qui va couper en morceaux, en 12 morceaux, sa concubine, et les envoyer à toutes les tribus d'Israël. Et à travers ce geste inimaginable, abominable, tout Israël va se lever pour détruire Benjamin. Benjamin va être une tribu qui va être complètement et totalement décimée. C'est pour vous dire, quand je vous parlais de cruauté, de barbarie et de toutes sortes de choses, on voit aujourd'hui ce qui se passe, mais je pense que quand même, les temps, le cœur de l'homme est toujours à peu près le même. Et comme un leitmotiv, revient cette citation que nous connaissons bien, parce qu'elle apparaît au moins 2 ou 3 fois dans le livre des Juges, il nous est dit ceci: en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Vous connaissez ça. Et là où l'autorité n'existe plus, puisque c'était le problème, ni une autorité spirituelle, ni une autorité de quelque nature que ce soit, il n'y avait plus de normes, et comme prévu, comme c'était prévu dans le Deutéronome chapitre 28, s'accomplit la malédiction qui avait été donnée à Israël, résultat d'une rupture d'alliance. Dieu leur avait dit, mais si vous me suivez, si vous me servez et m'obéissez, je ferai ceci, je ferai ça, et puis alors, les bénédictions, il y en a quand même pas mal dans le livre du Deutéronome. Mais il y a aussi, si vous m'abandonnez, à ce moment-là, je vous abandonnerai aussi à votre propre cœur, à vos propres penchants et à vos ennemis. Et nous pouvons parler, naturellement, dans cette période où nous avons ouvert notre Bible, d'une période de décadence et d'une période d'anarchie, et non seulement sur le plan de la vie, mais sur le plan spirituel. D'ailleurs, je crois que ça commençait sur le plan spirituel, et il y a eu naturellement des conséquences sur la vie sociale et tout le reste. Alors, intervient naturellement à ce moment-là les juges, dont le rôle n'était pas tant de régler la justice, parce qu'ils le faisaient, mais c'était pas tout à fait ça, mais ils représentaient, pour les uns et pour les autres qui défilent dans les pages de ce fameux livre qui porte le nom, ils avaient un rôle qui, leur donnait vocation d'intervenir au nom de Dieu. C'était en quelque sorte des hommes providentiels, suscités par Dieu pour renverser l'oppresseur étranger et le mettre hors du pays, c'est-à-dire le bouter hors d'Israël. Et en quelque sorte, c'était des Jeanne d'Arc avant le temps, on peut dire, dans ce sens que, Dieu les suscitait. Et là, ils avaient ce rôle de mobiliser le peuple autour d'eux, et ainsi de les mener au combat, et puis c'était là où, finalement, on voyait le miracle de Dieu. On connaît Gédéon avec ses 300 soldats qui vont battre les armées des Madianites, qui sont infiniment plus nombreux. Parmi les plus fameux, on peut citer, parmi les juges, on peut citer Déborah. Elle était naturellement première femme qui se distingue. Il y a Gédéon, il y a Samson, dont la vie nous la connaissons un petit peu. Il y a Élie le sacrificateur, pas confondre avec Élie le prophète. Et puis le dernier des juges, c'est Samuel. Et il y en a eu 12 dans toute cette période qui a couru. Et c'est une période assez triste en ce qui concerne Israël. Alors Shamgar, qu'est-ce qu'il nous apprend cet homme? Puisque quand on lit ça au temps de Shamgar, il n'est pas dit grand-chose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire un message sur... Alors, c'est sur le nom, naturellement, et puis c'est sur ce qui suit que nous allons découvrir, qui est intéressant. Ce n'est pas tant son exploit, puisque nous l'avons lu, qui est intéressant, puisqu'il a tué 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. C'était un instrument, cet aiguillon, eh bien un instrument qui servait au labour et qui était muni à l'un des bouts d'une pointe très aiguë et de l'autre bout, eh bien tout simplement d'une lame qui était recourbée, une lame en fer, qui servait à nettoyer le soc de la charrue. C'était une arme terrifiante. C'est un petit peu comme les chouans, vous savez, quand ils retournaient leur faux et ils la mettaient droite comme ça, ça a été quelque chose aussi, hein. Ça fait partie un peu de l'histoire de la région, là. C'était une arme meurtrière. Alors, comment peut-on comprendre qu'un homme a tué 600 Philistins d'un seul coup? Alors, c'est peut-être pas tout à fait comme ça qu'on peut l'interpréter, mais nous devons imaginer Shamgar à la tête de ces gens, de ceux qu'il avait ralliés autour de lui, qui les entraînait par son courage, et il a réalisé cet exploit. Parce que n'allez pas vous imaginer que les Philistins venaient devant lui et leur disaient, tout ce qu'il lui disait, coupe-moi la tête. Ça se faisait pas tout à fait comme ça. Non, c'est parce qu'il y avait avec lui, eh bien, il était le représentant de toute une troupe. Et c'était un exploit en Israël. Ce qui nous intéresse davantage, c'est cette assertion dans notre récit qui est mentionnée, qui nous révèle, qui nous ramène au contexte troublé de ce temps-là. Et ça commence de cette manière, en ce temps-là. Les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Imaginez-vous ce que ça peut être un pays où il n'y a plus personne sur les routes. Ça se fait rêver, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de monde, ça c'est sûr. Mais on peut parler finalement du climat d'insécurité et de désolation qui régnait en Israël puisque personne n'osait sortir. Notre pays a connu cette période, hein, après l'Exode, hein, après il n'y avait plus personne. Hein. C'était le contrôle systématique avec des barrages, avec toutes sortes de choses, ça remonte à une soixantaine d'années. Et nous voyons que le pays d'Israël, eh bien, toute la vie en Israël était devenue souterraine. Tout ce qui pouvait se faire, hein, les déplacements, les transactions, le commerce, c'était devenu souterrain. C'était quelque chose d'obscur, où tout le monde se cachait. Et dans une nation où tout le monde se cache, ça n'augure pas quelque chose de très bon. Quand les chrétiens se cachent, comme c'est arrivé dans certaines situations de l'histoire, on pense au début du christianisme, on pense à la réforme, on pense certainement à encore des frères et des sœurs qui sont persécutés dans certains pays, et peut-être encore même, eh bien dans notre contexte, où quand les chrétiens se cachent et qu'ils ont peur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on peut lire ce texte, et bien là, les routes étaient abandonnées, tous ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés à cause des ennemis qui dévastaient et qui occupaient finalement, et bien là, et bien le pays. Au temps de Shamgar, je répète, les routes étaient abandonnées. Première constatation. Les routes sont l'image de la vie, de la circulation et de l'activité. Plus un pays, et bien, bouge, plus un pays est vivant. Mais l'état d'Israël était si désastreux que toute vie normale s'était arrêtée. En raison, on le sait, puisque nous l'avons lu dans Deutéronome, enfin, j'ai cité le texte, en raison non pas de tout ce qu'il y avait autour, mais en raison du problème propre à Israël et en raison de son abandon de Dieu. Et je crois que nous pouvons faire une analogie comme pour les Israélites, Dieu a tracé des routes afin que nous accédions à sa bénédiction. Moi, je crois qu'il y a des choses qui sont claires, des choses qui sont simples. Comme on dit, on n'a pas besoin de chercher midi à 14h pour vivre sa foi. Pour réaliser la grâce de Dieu et de vivre ce que Dieu nous a demandé, il y a des routes qui sont tracées. Et pour que nous soyons en mesure de mener une vie épanouie, je précise bien l'adjectif. Parce que trop souvent, nous voyons parfois des enfants de Dieu qui n'ont pas une vie épanouie. Ils se cachent. Ils se cachent peut-être par rapport à eux-mêmes. Ou en raison d'eux-mêmes, d'abord. Et nous voyons que Dieu, donc, nous a donné des voies, des routes. D'abord, les grandes lignes de l'enseignement biblique et évangélique sont comme des rails de chemin de fer. On les a présentés comme ça, hein. Puis les temps immémoriaux, il y a des prédicateurs, on les a présentés d'une manière, c'est clair. Hein. D'ailleurs, dans les psaumes, il nous est dit, quand Dieu parle de ses voies, de ses commandements, de ses préceptes, il dit, mais ils sont droits. C'est pas tordu, c'est pas n'importe comment, mais c'est droit. Et lorsque nous sommes placés dessus, Et vous connaissez de la manière dont Dieu nous a placés dessus, conversion, repentance, nouvelle naissance, et puis nous avons tout simplement la vie de l'Église, hein, qui est là pour nous accompagner. Alors il suffit de suivre. J'ai toujours été étonné de voir et d'entendre certains raisonnements ou certains soupirs d'enfants de Dieu qui disent « mais c'est difficile ». C'est vrai que la vie n'est pas facile. C'est vrai qu'il y a des moments qui sont pénibles. C'est vrai que nous passons tant par la santé que par un état psychologique ou même spirituellement des moments difficiles. Mais néanmoins, le Seigneur nous dit « mais mes commandements ne sont pas pénibles ». Alors, c'est vrai qu'on est un petit peu parfois étonné. Alors, il suffit de suivre, de se laisser porter. C'est peut-être là le problème. C'est que nous nous débattons tellement fort entre les mains du Seigneur. Notre volonté, notre moi, notre vieil homme est là pour dire « eh bien moi, je veux aller par ici ». Et aller à droite ou aller à gauche occasionne des déraillements. Et hélas, combien de déraillements nous avons vu dans l'histoire des églises. La vie chrétienne est à l'image de ces rails qui nous conduisent d'une étape à une autre, sans les brûler, sans les griller. Et nous voyons que Dieu a un but. C'est comme Paul le dit, je vais devant, je ne regarde pas en arrière afin d'atteindre le prix de la course. Ça, ce sont des citations naturellement que vous connaissez. Les rails ne supportent ni rétrécissement, ni écartement. Elles ont été calculées, elles ont été tracées de telle manière que quand on va mettre la locomotive et puis ensuite le convoi derrière, eh bien, à un moment donné, ça ne passe pas comme ça, parce qu'autrement, il va tomber au milieu. Ou autrement, ce sera le contraire. Les roues du train vont aller de chaque côté. Donc, les choses ont été prévues. Ni écartement, ni rétrécissement. Mais, il faut bien l'avouer, souvent l'homme ou l'enfant de Dieu est ennemi de son propre bonheur. C'est dans Jérémie, au chapitre 6 et au verset 16, c'est Dieu qui interpelle par le prophète le peuple, son peuple d'Israël, dira ceci, « Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie et marchez-y. Vous trouverez du repos pour vos âmes. » Mais ils répondirent, « Nous n'y marcherons pas. » Et très souvent, nous avons ce genre d'invitation de Dieu et les réponses formulées par Israël en disant, « Nous ne le voulons pas. Nous n'y marcherons pas, nous voulons faire ce que nous avons envie de faire. » Sortir de route, c'est une véritable tentation. Ça fait partie peut-être des grandes tentations de la vie de l'enfant de Dieu, sortir de la route. On sait qu'il ne le faut pas, puisque nous avons été prévenus. On connaît les conséquences, mais hélas, on le fait quand même. L'histoire des Hébreux est là pour nous le rappeler à chaque page de l'Ancien Testament, dans les livres historiques. On s'aperçoit que ça revient très très souvent. La fidélité ici est préconisée. Et elle consiste en une chose, à persévérer et non pas à innover ou à tracer de nouvelles voies, mais tout simplement à redécouvrir sans cesse les chemins de toujours qu'ont emprunté les hommes de foi avant nous. C'est pour ça que nous avons la parole. Alors, je crois que ce qui est important, c'est que nous pouvons nous attendre à des surprises avec le Saint-Esprit. Et heureusement. Qu'il y a des choses sur lesquelles nous sommes là sur une voie, je le disais la semaine dernière, nous sommes sur une voie, mais ce ne sont que des traditions religieuses, traditions évangéliques même. Et Dieu nous dit, ben on va changer un peu. Et on se dit, mais non, je ne vais pas changer parce que je suis habité à cela. Et puis d'un autre côté, eh bien, quelquefois Dieu nous prend, il nous saisit personnellement, une église, et puis il nous dit maintenant, eh bien voilà, on va aller sur une voie, mais c'est la mienne celle-ci, hein. Ne vous méprenez pas, n'ayez pas de crainte, c'est moi qui l'ai décidé. Ce qui est grave, c'est quand nous décidons à la place de Dieu. Et qu'à travers toutes sortes de choses, et bien là, innovation et toutes sortes de choses, et bien nous disons, bien voilà, ça c'est la volonté de Dieu, c'est la voie de Dieu. Et quand nous avons vu ce qui est, il nous est simplement rappelé de rechercher les anciens sentiers. Et les anciens sentiers, ils seront toujours, alors par-delà les formes, hein, je vous passe sur les formes, mais le fond, il reste toujours le même. Parce que les formes, elles évoluent avec naturellement le temps et puis l'histoire. Mais une chose qui est certaine, c'est que le fond ne bouge pas. Il est intangible. Le Seigneur ne change pas. Et quand il dit une chose dans sa parole, eh bien, il ne va pas dire le contraire 10 siècles après. C'est toujours la même chose. Et nous, la manière de l'appréhender, cette voie, ce chemin, c'est tout simplement notre foi, de lui faire confiance. Et puis, un peu plus de souplesse et de flexibilité. Dieu a tracé donc des routes sûres, qu'il ne nous faut pas mépriser. Et ce sont des voix royales. C'est Jacques qui nous dit, à un moment donné, il nous parle d'une voix royale. Et la voix royale, c'est Jésus qui la tracera à l'Église primitive. Quand il déclarera ceci dans l'évangile de Matthieu, il dira « Mais faites de toutes les nations des disciples. » Voilà le travail. Et la voix « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et un peu plus loin, c'est Paul qui ajoute « Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. » Il a mis les rails. L'Église a été mise sur les rails. Puisque vous avez appris de nous comment vous conduire et plaire à Dieu, nous vous conjurons de marcher de progrès en progrès. C'est-à-dire, on va en avant, on ne va pas en arrière. On ne fait pas de stationnement. Une route a été ouverte par Jésus. Elle a été ouverte par lui-même, c'est ce que nous dit le livre des Hébreux, sur laquelle il a marché avant nous comme modèle. Et cela nous est donné pour que nous puissions y réfléchir et nous en souvenir, puisque nous avons ce texte fort dans la parole de Dieu. Il est dit ceci, nous avons une entrée libre par la route nouvelle et vivante. Quand je parlais d'anciens sentiers, eh bien là, dans le Nouveau Testament, elle revêt encore une autre caractéristique et il nous faut ouvrir notre esprit, parce qu'elle est nouvelle et vivante. Elle est remplie d'affranchissement, elle est remplie de liberté, elle est remplie d'une communion puissante avec Dieu. Entrée par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Et nous savons de la manière dont il l'a inaugurée. C'était pas toutes les cérémonies sacrificielles de l'Ancien Testament, mais là c'était le propre corps de Jésus qui était cloué sur la croix, et c'est lui qui a ouvert cette route vivante. Alors, c'est accessible, c'est compréhensible, tout le monde peut saisir ça. Pourtant, quand nous revenons à notre histoire, en Israël, les routes étaient abandonnées. On ne peut pas dire que c'était un peuple qui vivait dans l'ignorance. On ne peut pas dire que c'était un peuple qui était là, tout simplement, et bien là, un culte de la connaissance de Dieu. Au contraire, il avait des années et des siècles, et puis des hommes qui étaient passés par là. Et qui étaient des hommes de révélation de Dieu. Les routes étaient abandonnées, comme elles le sont, je dois dire, malheureusement, trop souvent aujourd'hui par les chrétiens eux-mêmes. C'est triste, hein ? On s'aperçoit que les églises se vident. Alors c'est un phénomène sociologique, c'est un phénomène de société. Mais quand même, il y a eu des temps autres, ça c'est clair. Et on peut dire que la route, eh bien, est abandonnée dans une certaine mesure. Les routes sont abandonnées. On va peut-être autre part, ça je pense que de toute façon, c'est sûr. Mais on a cette parole du prophète Ésaïe, parce que c'était constaté également 800 ans avant la venue de Jésus, quand il est dit ceci, les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes. Et on ne passe plus par les chemins. Vous voyez que c'est une vieille histoire. Alors il y a les pessimistes et il y a les optimistes parmi les enfants de Dieu. Alors les pessimistes disent, oui, ça se vide. Maintenant c'est l'hémorragie, c'est ceci et cela, ça se vide. Mais ça se vide partout. Si ça vous peut vous contenter, même à Saint-Nazaire. Eh oui. Et je suis sûr que dans d'autres églises, on dirait la même chose. Alors ça se vide, c'est vrai, ça se vide, la version pessimiste. Seigneur, que peut-on faire? Bon, en tous les cas, il y a une chose à faire, c'est de rester fidèle au Seigneur. Ça bouge pas. On est d'accord là-dessus. On bouge pas. C'est important. Et puis, il y a les optimistes qui disent, ah, oh, bah oui, c'est comme ça, mais on verra bien, et puis, on va essayer de faire quelque chose, mais faisons des choses comme le Seigneur nous les montre. Parce qu'en Israël, il y a eu des bas et des hauts. Il y a eu des temps faste où il y a eu des réveils, et puis il y a eu des moments où véritablement c'était l'abîme. Il n'y avait rien du tout. Regardez Élie. Seigneur, mais je suis resté moi seul. Seigneur lui dit donc, hein, faut que tu ouvres tes yeux, hein, parce que tu n'étais pas tout seul. Tu ne sais pas, tu ne le savais pas, mais il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Alors notre vision est un petit peu quelquefois restrictive parce que nous voyons les choses que nous voulons bien voir. Alors, il y a eu des moments où il y a eu des routes abandonnées, des chemins détournés. Et puis, vous savez, il faut vivre l'espérance, mes frères. Une chose qui est comme ça, c'est, elle est dans le monde aussi. Après les temps où il y a des désertions, des chemins abandonnés, eh bien, il y a des chemins qui vont venir si nous restons fidèles. Parce que on peut toujours se tourner vers le passé en disant « Ah oui, c'était ceci, c'était cela ». Naturellement, on a connu le passé. On a connu un certain passé. Mais on ne va pas pleurer là-dessus, frères et sœurs. On va regarder devant nous. Et on va dire « Voilà, il y a eu ceci, il y a eu des erreurs, il y a eu ceci, il y a eu cela, d'accord. Il y a eu des divisions. » Ah oui, parce que le diable, il s'en occupe. Hein. Mais on va faire en sorte que, Seigneur, tu nous donnes un souffle nouveau. Et tu vas souffler tellement fort que ce qui a été hier n'aura rien de comparable avec ce qui va se faire demain. Parce que c'est ça la foi. C'est ça d'avoir la vision de Dieu. Et on va pas se décourager, on va continuer. Parce que si nous restons fidèles, eh bien le Seigneur, lui, demeurera aussi fidèle. Il ne se départira pas des promesses de son appel et des dons qu'il a donnés. L'évangile et les épîtres s'offrent aux croyants comme une meilleure route qui mène à Dieu, où tout le long du trajet, il est nécessaire de bien comprendre ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, et que nous ayons la détermination de réussir dans le voyage que Dieu nous a assigné. Paul le dit, je l'ai cité, il regardait le but. D'atteindre le but, et ça c'est important. Alors je crois qu'il nous appartient de découvrir et d'user au mieux ce que Dieu a mis à notre entière disposition. Et nous allons voir ce qu'il nous a mis à notre disposition pour regarder devant, pour nous encourager, pour changer notre pessimisme, quelquefois latent, là, en vision dynamisante et vivifiante de Dieu. Et puis ceux qui sont impatients, peut-être les optimistes intrépides, de se calmer un peu parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va parler. C'est pas nos histoires, c'est pas nos recettes, c'est pas nos méthodes, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va parler. Et dans le cheminement de notre vie de chrétien, il nous est rappelé cette parole que Dieu nous a tout donné à ce qui contribue à la vie et à la foi. Vous connaissez, c'est Pierre qui dit cela. Alors sachant cela, on va pas oublier cela. On va voir un petit peu d'une manière assez rapide et puis peut-être d'une façon imagée tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Je dirais d'abord que la vie moderne, la nôtre, nous a familiarisés avec un vocabulaire routier au quotidien. On a la météo au moins plusieurs fois par jour, mais aussi on a le bulletin d'information de circulation des routes. Et on est passé, si vous conduisez naturellement, on a passé le code de la route et on a appris à conduire. Et je crois qu'on va faire une petit parallèle avec la conduite spirituelle, parce qu'il y a des règles de sécurité. Et il y a des civilités au volant, comprenez ce que je veux dire, et des civilités dans la communion fraternelle qu'il ne faut pas non plus oublier. Vous entendez souvent à la radio ou à la télévision, ou sur l'autoradio, ce que l'on a appelé, ce qui est une institution maintenant, inforoute. Hein, vous avez entendu parler de ça. Et on nous signale les risques accidentogènes. Alors c'est un grand mot, hein, mais j'utilise finalement un petit peu les termes d'aujourd'hui, les risques accidentogènes. On va vous dire que dans tel endroit, ceci et cela, si ça peut être évité, si vous pouvez vous détourner, etc. Il y a des bulletins d'encombrement, ce qu'on appelle pudiquement des bouchons. Hein. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on signale les bouchons et les gens vont vers les bouchons. Le jour, j'entendais quelqu'un, là, dernièrement, et c'est sur l'autoroute du Sud, il avait je ne sais pas combien d'heures d'attente, hein, ne serait-ce que pour prendre un ticket d'autoroute, avant de payer, parce qu'il paiera comptant, naturellement, comptant et comptant, et il avait je ne sais pas combien d'heures d'attente pour pouvoir prendre son ticket, et le journaliste lui disait tout simplement, mais ça ne vous fait rien, il était en plein soleil avec des gamins dans la voiture, et ça cuit, hein. Alors, il disait, ça ne vous fait rien, ah, ça fait partie des vacances. Ah, bah, c'est très bien. Très bien. Alors, les bouchons à éviter. Il y a l'état des routes et leurs aléas. Hein. Il y a des règles à respecter quand il pleut. Le brouillard, le verglas. Nous avons aussi des informations et des conseils de vigilance. On voit de plus en plus de gens. Attention, hein. Si je vous vois, vous verrez. Hein. Ceux qui écoutent et qui tripotent la radio continuellement, ils conduisent d'une main. Quand c'est pas la télévision, non, c'est pas encore pour les chauffeurs, mais ça va peut-être venir. Il y a manger au volant, et puis vous savez que la vue, c'est la vie, hein. Ce sont des recommandations. Il y a les fameux, ô combien bien aimés détecteurs d'infraction, les radars. Il y en a un là, c'est assez curieux parce que quand on arrive de Nantes là pour rentrer à Saint-Nazaire, il y en a un, il est bien placé, il est signalé, hein. Et c'est marrant parce que tout le monde descend 70. Alors qu'on peut rouler encore à 90, hein. Enfin, drôle d'effet, hein. Puis il y en a un autre juste derrière, là il est plus traître celui, enfin bon, je sais pas, excusez-moi, je vais pas avoir des ennuis. Les fameux détecteurs d'infraction. Et puis il y a une chose que je voudrais dire avant d'aller un peu plus loin, c'est qu'il y a un rappel important. Comme au volant, dans la vie chrétienne, il y a un pilote et un seul volant. Vous avez vu des voitures où il y a deux volants? C'est rare, hein? Il y a un seul pilote, il y a un seul conducteur et un seul volant. Ce qui m'amène à dire, c'est que Dieu nous a donné, sur cette route qu'il a tracée pour nous, des indications de direction pour rester dans la bonne voie. Vous savez, comme les grands panneaux bleus ou verts, là, pour nous donner les grandes directions, les grandes lignes. Donc d'abord ça, pour maintenir le cap sur le bien en tout temps, la vérité et la droiture, et ça nous est rappelé continuellement. Et si nous n'avons pas vu les pancartes, il y a la conscience, le Saint-Esprit qui parle à notre conscience à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a ensuite les signalisations de danger. Vous savez, les ronds avec panneaux rouges, enfin les panneaux rouges. Et le danger consiste parfois avec un peu de témérité qu'on appelle de l'orgueil, voire même de l'orgueil spirituel. Et puis nous avons la critique aussi. Ça, c'est un signalement de danger. Et c'est curieux parce que trop souvent, on ne le voit pas celui-ci, ce panneau. Et puis il y a la convoitise, enfin les convoitises. Il y a l'éclairage spirituel, parce que là, quand on circule, et de nuit particulièrement, qui balise le sentier dans l'obscurité. Et on le chante, la foi illumine la nuit. N'oublions jamais la foi, hein. C'est important, hein, parce que sans la foi, on peut faire peut-être beaucoup de choses, il n'y aura jamais de fruits, il y aura peut-être des œuvres, mais des œuvres qui seront mortes. Et la foi, elle éclaire notre route. Il y a les réglementations qui régissent le comportement avec les autres usagers de la route. On parle aujourd'hui d'un comportement citoyen de civilité. Et quelquefois, il y a des noms d'oiseaux. Heureusement qu'il y a de la clim dans les voitures et que les fenêtres sont fermées. On voit des gens qui se mettent tout rouge, on dit « il a chaud ». Mais quelquefois, on peut deviner sur les lèvres ce qui se passe. Parce que vous savez, les gens ne sont pas toujours très gentils. Hein. Eh oui, l'amour fraternel. Et là, c'est important aussi que nous apprenions à être citoyens des cieux. Parce que c'est un terme qui est employé aussi dans la parole. Il y a tous les conseils pratiques et de première urgence en cas de panne. Et là, eh bien, nous sommes invités à faire confiance. En cas d'accident, et les accidents, eh bien, ce peut être nos péchés, ce peut être nos fautes. Et quand nous avons besoin de faire certaines choses, parfois il faut réparer. Et la réparation s'appelle tout simplement repentance. Elle peut s'appeler tout simplement demander pardon. Et ça va tout de suite mieux après. Dans les périodes sombres de l'épreuve, eh bien, il y a les glissières de sécurité, comme sur les autoroutes, qui évitent les sorties de route. C'est-à-dire, ça vous renvoie, mais ça va pas vous mettre dans les champs. Il y a l'utilisation des différentes files de circulation en fonction de l'avancement spirituel de chacun. Et Dieu dans l'Église, eh bien, a réuni des jeunes, il a réuni des anciens, il a réuni des hommes, des femmes, il a réuni de toutes catégories. Et de grâce, n'essayons pas de pousser ceux qui ne peuvent plus avancer. Ils ont peut-être des raisons pour pouvoir avancer. Ils ont peut-être avancé plus vite que nous avant. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à un âge où il faut les respecter. Et puis, je crois qu'il y a aussi la jeunesse qui a sa place. Et puis, il y a toutes sortes de catégories. Et quand on veut donner une casquette à tout le monde de la même couleur, ça fait toujours du nouveau travail. C'est pour ça qu'il y a des files de circulation à l'extérieur. Et bien pour nous, c'est pareil. Chacun va aller avec la manière dont il peut appréhender le Seigneur et la manière dont le Seigneur veut le conduire. Certains iront plus vite, d'autres iront plus lentement. Mais de grâce, respectons-nous les uns les autres. Il y a les prescriptions de ralentissement, je vous parlais des radars tout à l'heure, et les limitations de vitesse. Quelquefois, on se fait piéger, hein. Ça vous est déjà arrivé, non? Non, jamais. Vous avez de la chance. Je vais vous faire une confidence. J'ai une amende dans ma vie. En 32 ans de conduite, une amende. C'était un défaut de stationnement. J'espère que la semaine prochaine, je pourrai vous dire que j'ai ramassé un PV pour excès de vitesse. Ah oui? Non, mais la grâce de Dieu, hein. Vous savez, on a besoin de prier quand on prend la voiture. Pas l'oublier, c'est peut-être des choses comme ça qui passent. Prescription de ralentissement, de limitation de vitesse. Pour les téméraires, parce qu'il y a toujours des téméraires. Et ceux qui bousculent les autres, par trop de zèle. Alors, vous avez du zèle, eh bien, mettez-le au service du Seigneur. Que ce soit un zèle spirituel. Mais, de grâce, aidez, soyez plein de compassion aussi, pour les autres. Il y a les défenses de stationnement, pour les paresseux, pour ceux qui somnolent, ceux qui s'endorment. Eh oui, ça fait partie des grands dangers de la route aujourd'hui, hein. Et puis, il y a des endroits en stationnement qui discréditent le témoignage chrétien. Il faut faire attention. Il y a des aires de repos. Mais je voudrais vous dire que dans le voyage que Dieu nous propose, il n'y a pas de péage. C'est gratuit. C'est formidable. C'est comme en Bretagne, il n'y a pas de péage ici. Mais vous sortez un petit peu plus et voilà, vous allez payer. Ça, c'est sûr. Donc, heureux qui peut dire qu'il connaît et observe le code de la route spirituelle. Et vous le connaissez. Et chacun d'entre nous le connaissons. Ouais. Ça fait, pour certains, ça fait plusieurs décennies que nous le connaissons. Mais, et qu'il n'abandonne pas les routes du Seigneur. Dans le psaume 44, il est dit ceci. Notre cœur ne s'est point détourné. Nos pas ne se sont pas éloignés de ton sentier. Et nous revenons aussitôt à notre texte et je lis ceci. Les routes étaient abandonnées. Ah, il n'y avait pas d'excès de vitesse. Puisqu'il n'y avait plus personne. Quelques routes d'intérêt général qu'il importe de ne jamais quitter au risque de s'égarer. Je les rappelle. Il nous faut nous maintenir, frères et sœurs, sur la route, la voie, enfin je dirais la grande voie, l'autoroute de la parole de Dieu. Ça, c'est l'essentiel. À travers une méditation, à travers cette lecture qui nous nourrit, parce qu'elle nous est présentée comme quelque chose qui nous fortifie, qui nous donne la vie. Et Paul dira à Timothée, applique-toi à la lecture de la parole. Mais vous allez me dire, mais c'est tellement puéril. Et pourtant, parce que cette parole lue va nous fortifier de notre obéissance. Et pour l'avoir délaissée, Jésus dira aux pharisiens, vous avez abandonné le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Et ce qui est d'autant plus terrible, c'est que les hommes ou les enfants de Dieu abandonnent la parole de Dieu, mais ils ne l'abandonnent pas pour rien. C'est pas le vide, c'est qu'ils y mettent toutes sortes de choses à la place. Une interprétation, une compréhension, où là, eh bien, il y a peut-être encore la superstructure de la parole, mais il n'y a plus l'esprit. Ce n'est plus qu'un monument vide, mort, terne, mais il n'y a plus la vie de l'esprit. Parce qu'il faut encore lire la parole dans la pensée du Saint-Esprit, parce qu'autrement, ça ne sert à rien. Il y a aussi l'assiduité aux réunions. Vous l'avez pas entendu ça depuis que je suis là, hein? Ah, je suis très, très discret avec ça. L'assiduité aux réunions et la communion fraternelle. On vient y rencontrer le Seigneur et on vient y rencontrer nos frères et nos sœurs. C'est formidable, hein? Moi, je suis heureux, hein, d'être dans la communion fraternelle. Depuis 2 ans, j'ai survécu. C'est bien. Eh oui, c'est formidable. Et c'est vrai que c'est formidable. Moi, j'aime bien la communion fraternelle. Je savais ce que c'était avant quand j'étais... Simplement que je connaissais pas le Seigneur. Il y a quelque chose de plus, là. C'est quelque chose d'unique, même. Et nous avons besoin de ce ressourcement et de ce partage qui est absolument nécessaire. Il y a la vie de l'esprit, maintenant. Faite de prières et de services, de recherche, de communication et de communion. Pour que nous n'abandonnions pas, selon les termes de l'auteur des Hébreux, que nous n'abandonnions pas notre assurance. Notre assurance. La vie de l'esprit. La sanctification pratique, ça fait partie aussi des grandes routes de Dieu. Comme Paul dira aux Galates, mais vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher? Ah oui, ils étaient bien partis, mais ils ont mal fini. C'est ça le problème. 4 voies royales qu'il faut entretenir, faire et refaire. Et refaire continuellement. Et recommencer. Il y a des réunions de prière et d'études bibliques le mercredi soir. Il y a des réunions d'évangélisation le vendredi et le dimanche après-midi. Il y a le culte. À Redon, il y a la même chose. Alors, mes frères et mes sœurs, faire et refaire. Et je bénis le Seigneur que dans toutes les assemblées, même s'il y a eu beaucoup de dispersion, il y a des frères et des sœurs qui sont restés fidèles à l'Église de Jésus-Christ. Ça restait là. C'est tout. Envers et contre tout, ils ont dit, bon, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Mais je reste là parce que je suis beaucoup plus attaché au Seigneur qu'à toute autre chose. C'est important, ça. Vous couvriez bien, mais qu'est-ce qui vous a arrêté? 4 voies car une route délaissée à l'abandon est vite livrée à la dégradation et à la nature. Vous avez vu les chemins quand ils sont pas entretenus dans les campagnes ou dans les communes? Ça disparaît très vite, hein. Il suffit de 2 ou 3 ans, c'est terminé, il n'y a plus rien du tout. Et la nature, oui, je dis bien, notre nature reprend ses droits très vite. C'est pour ça que c'est important. Et vient le temps des épines, des ronces, des effondrements, des nids de poules, enfin tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, comment retrouver son chemin quand il n'est plus tracé? Comment identifier? Il y a des abandons par lassitude, il y a des abandons par découragement, il y a des abandons par dépit, il y a des abandons pour faute de persévérance. Jésus nous a prévenus de la nature du chemin, et ça on peut pas dire qu'on ne le sait pas. Il nous a dit ceci, chemin étroit et resserré, mais le chemin qui mène à la vie. C'est Jésus qui l'a dit. Et c'est vrai que si nous nous attendons à avoir véritablement une route, hein, que d'autres sur lesquels nous ont précédés ont fait déjà beaucoup de travail pour nous, hein, et que nous disons bien finalement tout ça c'est facile, eh bien Jésus nous prouve le contraire. Il y a parfois des rétrécissements, il y a parfois des passages périlleux et dangereux, resserrés, mais ça mène à la vie. Dans un monde où il y a une telle désaffection de la responsabilité des gens, dans un monde où les gens ne veulent plus finalement s'engager, où les gens ne veulent plus forcer. On est vraiment dans une époque, hein, où on se dit tout le monde se plaint, mais on a quand même pas mal de choses, hein. Vous savez, il y a des peuples, il y a des pays, c'est pas tout à fait ça, hein. J'appréhende, mais vous aussi, je suppose, le jour où il va y avoir un krach, parce qu'il viendra un moment ou un autre, hein. Il viendra, hein. Il y aura peut-être des pénuries, il y aura peut-être des choses. Comment va-t-on réagir à ce moment-là? Je ne veux pas être un prophète de mauvais augure, mais de toute façon, quelque part, l'histoire de l'homme, c'est ça. Combat à livrer, renoncement, tentation. Mais c'est un fardeau dont nous pouvons nous décharger. Parce que ce fardeau, eh bien, Jésus nous a demandé justement de le déposer pour pouvoir aller jusqu'au bout sur ce chemin. Et dans les moments périlleux, il nous dit « Je suis tous les jours avec vous, hein, même dans ces moments-là. » Parce que la croix, elle est partout. Et un chrétien qui n'a pas la vision de la croix, eh bien, il porte le nom, mais finalement, il n'en a pas la substance. Parce que la croix, c'est le sacrifice. Et je vais bientôt finir. Sur ce chemin, il y a aussi de nombreux obstacles qui s'y dressent, et le réflexe est de faire comme autant de changars. Non seulement les routes étaient abandonnées, mais quand elles n'étaient pas abandonnées, il nous est dit, ceux qui voyageaient, prenez des chemins détournés. Voilà la tentation. Chemin détourné. Fuir la souffrance. Esquiver le devoir. Aujourd'hui, il y a un slogan qui passe dans le monde occidental, c'est que nous voulons bien des bénéfices et nous voulons bien de toutes les prérogatives de la société, mais nous ne voulons pas le devoir. Eh bien, le devoir, il va falloir qu'on y passe quand même. Parce que nous allons tomber dans l'indigence. Il faut accepter certaines choses. Elles ne nous font peut-être pas rire, elles ne nous enchantent pas, mais néanmoins, il faut passer par là. Esquiver le devoir, c'est quelque chose qui doit être inconcevable pour un chrétien. Remettre les devoirs sur le dos des autres en disant c'est pas moi qui le fais, c'est l'autre qui va le faire. Ça durera qu'un temps. Hein. Pour éviter l'ennemi, parce qu'il est là, pour éviter la lutte, pour éviter les exigences, pour éviter la monotonie. Parce que la vie chrétienne, elle est faite aussi de monotonie. Je viens toujours, on chante toujours les mêmes cantiques, je vois toujours la tête du pasteur la même. Eh bien, un carnaval, je prendrai un masque. Non, mais je blague, hein, vous connaissez un petit peu. Ah oui, alors c'est toujours la même chose, ça ne change pas. Ah oui, mais peut-être que les autres sont appelés à changer, mais nous sommes appelés aussi à nous renouveler. Et quand je serai renouvelé, j'apporterai un renouvellement aux autres. C'est comme ça que ça marche. Les itinéraires bis que l'on prend quelquefois, vous savez, mais qui nous font battre la campagne. Alors attention, tout ces raccourcis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils rallongent. Ils nous rallongent et ils parviennent rarement à destination. Large et spacieux, nous dit Jésus, est le chemin, et il y en a beaucoup qui passent par là. Et hélas, aussi des enfants de Dieu. Chemin sinueux, chemins dissimulés, chemins méandreux qui font quitter la route droite de la vie de Dieu, de la vie du Saint-Esprit pour aller plus vite. On coupe à travers champs et on emprunte toutes sortes de raccourcis qui nous semblent attrayants. L'humain, le charnel à la place du spirituel, le psychique qui est très fort, le sentimental, l'affect, l'émotionnel, l'intellectuel, le culturel. J'arrête là. Rien n'est plus dangereux que les voies détournées pour les excès de vitesse, parce que justement c'est sinueux, qui imagent nos passions, qui font perdre la tête et aller au fossé. Et quelquefois, malheureusement, nous avons vu tant d'enfants de Dieu qui ont été récupérés dans le fossé. Récupérables, je le souhaite, mais dans le fossé quand même. Les routes tracées par Dieu sont resserrées, mais nous obligent à une chose, à la vigilance. Si vous prenez la quatre voies, là, c'est tranquille, somme toute, il faut vraiment avoir les yeux ouverts. Mais si vous allez en montagne et vous prenez des petites routes, eh bien, vous allez voir qu'il va falloir faire beaucoup plus attention. Et c'est peut-être là où il y a le moins d'accidents. Parce que les gens sont beaucoup plus prudents. Vigilance. Alors que les voies de travers semblent quelquefois engageantes, mais évitent, finalement, nous induisent à relâcher la tension. Et parfois, eh bien, nous amènent à la nonchalance. Et ça, c'est le danger. Conclusion. Ne laissons pas le monde et ses influences, si je peux ajouter cela, barrer nos voies de communication spirituelle, à commencer par celles qui vont vers la verticale et ceux qui marchent à l'horizontale. Ça, c'est déjà une première chose. Que nos péchés, à quelque niveau que ce soit, et les plus dissimulés, ne viennent pas nous faire emprunter des voies détournées. Et si, comme Shangar, et je rappelle la signification de son nom, Shangar signifie celui qui garde. Celui qui tient la route, c'est moi qui l'ai ajouté ça. Il garde la ligne, il garde le chemin, il garde la route. Alors si comme Shangar, sur notre chemin, nous rencontrons 600 Philistins, ça en fait déjà pas mal, hein, 600 Philistins, avec la grâce de Dieu, nous avons à réagir et les chasser de nos vies pour rester debout et rester victorieux sur la route qui a été tracée. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous donne sa grâce. Que Dieu nous aide à rester fidèle au Seigneur, ça sera le dernier mot. Fidèle au Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour ta fidélité. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que nous marchons sur les routes de la vie. Nous marchons sur les routes de la terre. Nous marchons sur les routes de l'évangile que tu as tracé pour nous. Mais Seigneur, c'est pas parce que nous avons l'évangile que nous sommes hors d'atteinte. Que nous sommes en parfaite sécurité comme des inconscients, mais tu veux nous rendre, Seigneur, vigilants. Tu veux nous donner, Seigneur, la sagesse de cet homme qui a construit sa maison sur le roc. Tu veux nous donner, Père éternel, l'inspiration du Saint-Esprit à travers la lecture de ta parole renouvelée. Tu veux nous donner, Seigneur, de comprendre et de décoder les indications, Seigneur, de l'Esprit-Saint qui est en nous parce que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Tu vas nous donner également, Père éternel, une sanctification pratique, parce qu'à partir du moment où je m'arrête, rien ne se passe. Et tu veux nous voir avancer. Alors, Seigneur, tu nous fais grâce. Aide ton peuple, Seigneur, à marcher sur la route, afin que les routes abandonnées et les chemins détournés, maintenant n'existent plus, Seigneur, là, au sein, Seigneur, du peuple de Dieu qui marche vers le ciel. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Bénis mes frères et mes sœurs. Aide-les, Seigneur. Fais-leur grâce. Encourage-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, merci notre Dieu, merci notre Sauveur. Amen. Amen.